4. L'appel au pardon. L'or, en ce cas, doit être si bien battu le médisant que ses épaules s'en sentent bien et si longuement qu'il crie merci aux dames à haute voix. Tellement que chacun l'œil, en promettant que jamais ne lui adviendra d'en médire ou vilainement parler. René d'Anjou. Penché sur l'échiquier rouge et ivoire, Rinfroid du trèfle pesait son prochain mouvement. Blancandin avait étourdiment exposé son dernier roc. Il n'en coûterait qu'un alfin de le prendre, après quoi le seigneur du trèfle le mettrait mat en 3 coups. Le châtelain estimait toutefois qu'il n'était pas très sage d'infliger pareille correction à un prince ducal, publiquement de surcroît. Rinfroid était tenté de déplacer une autre pièce. Une vraie bêtise de débutant, mais son adversaire avait un si piètre niveau qu'il ne s'apercevrait sans doute de rien. Au pire, il se réjouirait de son avantage. Non, ce qui tracassait le seigneur du trèfle, c'était que la partie se trouvait suivie par plusieurs chevaliers et écuyers de la suite du prince. Il en connaissait certains. Parmi eux, le sire de Froec était un joueur confirmé, que Rinfroid du trèfle avait eu plaisir à affronter jadis, pendant les pourparlers de paix entre le duc Ganelon et le comte Anguzel. Si le châtelain épargnait ce roc, le sire de Froec comprendrait aussitôt que l'erreur était due à la complaisance et non à l'étourderie. Or, le jeune Blancandin avait bien l'orgueil de sa race. Lui révélerait-on qu'on l'avait laissé gagner, il se montrerait aussi offensé que s'il avait perdu. Cette faiblesse du prince au jeu d'échecs était d'autant plus singulière que le jouvenceau était intelligent et paraissait mûr pour son âge. Sans doute avait-il de qui tenir. Le duc était renommé pour son flair et la vivacité de son jugement. La ci-devant duchesse Odéarde possédait un esprit brillant qui avait conféré un grand lustre à la cour. De son père, Blancandin avait également eu en partage la mâchoire un peu lourde et les cheveux roux, un trait de la lignée dû au mariage de ses aïeux avec des princesses ouromandes. De sa mère, il avait reçu de belles mains fuselées et une distinction naturelle. Ses ressemblances avaient sauté aux yeux du seigneur du trèfle quand il avait accueilli cet hôte encombrant. C'était la première fois qu'il le revoyait depuis 5 bonnes années. De l'enfant, il n'avait conservé que le vague souvenir d'un petit rousseau turbulent. Sans son évidente parenté avec le couple ducal, Rinfroid ne l'aurait pas reconnu quand le prince, surgi de nulle part à la tête d'une poignée de chevaliers, lui avait demandé l'hospitalité. C'était d'ailleurs pour l'honorer que le châtelain l'avait défié aux échecs. Quelle inconséquence! Car Rinfroid devait bien l'admettre, il était entièrement responsable de ce faux pas. Pendant plusieurs années, Blancandin avait suivi un noviciat au sein de l'ordre radieux. Or, la règle des prêtres-soldats proscrivait tous les jeux. S'il n'avait pas été si surpris de retrouver le jeune fils du duc à sa porte, le seigneur du trèfle aurait sagement évité de proposer cette partie. Mais les dés étaient jetés. Il s'agissait à présent de se sortir de cette gaucherie avec doigté. Pour gagner du temps en se donnant une contenance, le châtelain fit mine de bouger sa vierge. Son jeune adversaire suivit l'initiative d'un air maussade. Et Rinfroid vit du coin de l'œil que le sire de Froec levait un sourcil perplexe. L'erreur était par trop grossière. Le seigneur du trèfle suspendit son geste. « Vous hésitez ?» observa Blancandin.
« C'est que vous me posez un sérieux problème. Je ne me croyais pas si doué. »
Les pièges de cette partie trop bien engagée en reflétaient d'autres, qui se jouaient quant à eux sur le vaste échiquier du duché. Le retour impromptu de Blancandin formait en soi un coup d'audace. Troisième fils légitime du duc Ganelon, le jouvenceau n'était pas destiné à hériter. En fait, il ne disposait pas du moindre apanage en Bromel. Son père l'avait placé dans l'ordre radieux pour l'écarter de la succession, tout en lui offrant une carrière au sein d'une prestigieuse confrérie militaire. la réapparition du jeune prince dans la province le posait en rival implicite de ses frères et frisait la rébellion contre l'autorité paternelle. Les hauts hommes qui formaient son escorte confortaient d'ailleurs les inquiétudes du seigneur du Trèfle. Certes, plusieurs suivants de Blancandin étaient issus de la maison ducale, mais des chevaliers comme Dame de Maubrenas ou Cohuir de Thèves, qui avaient appartenu à l'hôtel de la ci-devant duchesse, étaient tombés en disgrâce quand la dame avait été privée de ses titres et de sa liberté. Plus troublant encore, d'autres compagnons de Blancandin étaient, à l'instar de Gérian de Froëc, des bannerets du comte de Quimarc. Bien qu'une paix fragile régnât depuis quelques années entre le duc Ganelon et le comte Anguzel, la présence de chevaliers de Quimarc dans l'entourage de Blancandin était d'une troublante équivoque. Brun froid du Trèfle effleura son alfin. Fallait-il jouer franc jeu? En tant que vassal du duc, il eût été de son devoir de mettre respectueusement en garde Blancandin contre ses erreurs. Mais à l'image de son château de plaine, le seigneur occupait une position délicate. S'il tenait son fief de son Altesse ducale, il l'administrait aux portes du comté de Quimarc. Depuis plus de 10 ans, il menait une prudente politique de balance entre son ombrageux suzerain et son remuant voisin. Telle était même la raison pour laquelle il faisait omission de la couronne baroniale sur ses armoiries. Il préférait ne pas afficher de façon ostensible qu'il prêtait directement hommage au duc. Cela ne trompait pas le comte Anguzel, mais laissait planer la possibilité d'une défection qui, en cas de nouveau conflit, épargnerait peut-être au Trèfle une offensive venue du comté. S'il remplissait ses devoirs de vassal et rappelait Blancandin à l'obéissance, nul doute que la loyauté du Trèfle au duché serait rapportée à la cour comtale. « Eh bien, prenez-vous votre parti ?» s'impatienta le jeune homme. « Votre roc me tend si hardiment le flanc que je flaire une embûche. Mais laquelle ? Je reste dans l'expectative. » Découvrant enfin sa sottise, le prince affecta l'indifférence. « Prenez donc cette pièce et vous le découvrirez. » Au même moment, Rinfroid du Trèfle perçut de l'animation à l'entrée de la salle. Les voyageurs récemment arrivés allaient se présenter, dont un cas des plus épineux. « Pour vous parler franchement, » dit le châtelain, « je ne vois pas d'issue favorable à cette partie. La situation paraît bloquée et je vais devoir me consacrer à mes devoirs d'hôte. Me concéderez-vous le patte ?»« C'est la moindre des choses, » répondit Blancandin avec une politesse oblique. « Je ne saurais vous détourner de vos obligations. » Dans le dos du prince, le sire de Froëc adressa un sourire entendu au seigneur du Trèfle. Entraient non les derniers venus, mais la dame du Trèfle et ses deux cadettes. Rinfroid les bénit intérieurement pour cette diversion. Il eut l'attention attirée par l'énorme chat noir qui se laissait docilement porter par la petite mantie, sa queue touffue et ses pattes arrière traînant presque jusqu'au sol. Il ne fut pas le seul à repérer l'imposant matou. Dans un claquement de babine, les chiens qui paraissaient devant l'âtre venaient de redresser la tête et les oreilles. Le châtelain n'eut cependant pas le loisir de demander d'où sortait ce gros mistigris, car derrière son épouse et ses filles se profilaient bel et bien de nouvelles têtes. « Le chevalier Edan de Vaumacel et le chevalier Ivorin de Kéan, » annonça un page. Autour de lui, Rinfroid sentit le jeune Blancandin et ses gens se crisper comme l'avaient fait les matins à l'apparition du chat. En temps ordinaire, le seigneur du Trèfle se serait bien passé de la visite du sire de Vaumacel. Mais en arrivant le même jour que le prince ducal, l'importun avait choisi le pire moment pour se présenter. Voici un autre roc qui prêtait sottement le flanc. En tant que maître de maison, il était du devoir du châtelain d'empêcher une dangereuse combinaison de mouvements. Les deux nouveaux venus s'inclinèrent courtoisement devant la dame du Trèfle. Rinfroi rejoignit son épouse et ses filles d'un air prévenant, surtout dans l'intention de s'interposer entre la suite de Blancandin et le sire de Vaumacel. Quoique cela fît des années qu'il ne l'avait plus croisé, il le reconnut au premier coup d'œil. Le chevalier n'avait pas changé. Large d'épaules, la taille bien prise dans sa cotte hardie, il restait en tout point semblable au champion qui avait jadis brillé au tournoi de Gaudemas. Du moins, jusqu'à sa défaite inattendue devant le baron de Traval. Le sire de Vaumacel reconnut également son hôte, bien que celui-ci eût été moins ménagé par le cours des ans.
« Sire Rinfroi, je suis aise de vous revoir, » salua-t-il. « Je ne sais ce dont je dois le plus me réjouir, de l'honneur ou du plaisir d'être reçu par vous. »
« Croyez bien que je me pose la question en des termes presque semblables au sujet de votre visite, » répondit le châtelain.
« Permettez que je vous présente mon compagnon, » repartit Edan. « Sire Ivorin, du comté de Belestance. Une mésaventure nous a récemment réunis. Quoique je ne l'ai rencontré que depuis peu, je vous réponds de sa courtoisie.
« Seigneur et dame, » dit Ivorin, « je suis charmé d'être accueilli par de si hauts personnages. » Le jeune chevalier avait l'air franc et de belles manières, mais son nom ne disait rien au seigneur du trèfle. Quoique sa cotte fût de belle coupe, elle n'avait point d'or froid aux manches et son col n'était doublé que de genettes. « Petite noblesse, » déduit le châtelain.
« Eh bien, Kéan, » lança Blancandin de l'autre bout de la salle, « vous nous avez précédés, ce me semble. » « Vous voilà très ami avec celui que vous juriez si fort de déconfire. »
Le feu monta aux joues d'Ivorin, mais le seigneur du trèfle ne lui laissa pas le loisir de répondre à la provocation. Se retournant vers le prince, il s'enquit d'un ton badin.
« Vous vous connaissez donc, quel plaisir d'être témoin de ces retrouvailles !»
Puis, pour couper court à des tensions qui se manifestaient trop vite à son gré, il frappa dans ses mains.
« Qu'on dresse les tables !» ordonna-t-il. Il est temps d'offrir bonne chère à une si noble compagnie.
Bien que surpris de mettre si tôt le couvert, pages et varlets commencèrent à préparer la salle en apportant tréteaux, plateaux et nappes. Leur activité s'interposait entre les deux chevaliers nouvellement arrivés et la suite de Blancandin. Le seigneur et la dame du trèfle n'eurent pas à se concerter. Dame Emelot partit présenter ses filles au prince et à ses hommes, pendant que Rinfroi s'attardait avec les sires de Vaumacel et de Kéan.
« Ainsi donc, vous voici de retour, » glissa le châtelain à Edan. « Votre absence n'est pas passée inaperçue. »«
Oui, et je gage qu'elle m'a valu de méchants ragots. Votre hospitalité ne m'en oblige que davantage. Je n'ignore point qu'on me tient pour infréquentable. »
« Je ne vous cacherai pas que ma loyauté au duc pourrait peser dans notre commerce. »«
C'est tout à votre honneur, sire Rinfroi. Je venais d'ailleurs me soumettre à votre jugement, dans une affaire de moindre importance. »«
Ah, vraiment ?»«
Oui. J'ai eu maille à partir avec quelques-uns de vos vilains, à Chanevier. Je tenais à m'en expliquer. »«
Oh, j'espère qu'ils ne vous ont en rien offensé. »«
J'estime avoir déjà obtenu réparation. » Mais ces gens vous appartenant, mon devoir m'imposait de vous soumettre l'affaire.
Eh bien, nous en parlerons à tête reposée. Pour l'heure, veuillez me pardonner, je vais assister mon épouse dans le placement de nos hôtes.
Du coin de l'œil, il n'avait rien perdu de la façon dont celle-ci avait occupé l'autre partie. La dame du trèfle jouait à merveille son rôle de mère aimante, si fière de ses enfants qu'elle n'hésitait point à en importuner ses hôtes. Blancandin se montrait un peu emprunté devant les deux fillettes et leur énorme matou. Soumis à la stricte discipline de l'ordre radieux pendant des années, trop jeune encore pour avoir la fibre paternelle, il ne savait comment se comporter avec les mignardes. Certains de ses suivants, en revanche, prenaient plaisir à taquiner les petites. Ainsi des sires de Froec et de Maubrenas, qui avaient des enfants de cet âge. Les demoiselles du trèfle les leur rappelaient sans doute. C'était un délice de voir ces rudes combattants mignonner les souris. Tant qu'ils étaient d'âge tendre, quelle bénédiction que les enfants, se félicitèrent Rinfroi en rejoignant sa femme. Leur présence dans une assemblée modérait les violents et les impudents, du moins aussi longtemps que le vin n'avait pas coulé. Mieux encore, ils formaient des atouts majeurs dans la diplomatie des gens bien nés. Point n'était besoin de les engager trop avant, il suffisait de faire miroiter des perspectives d'échange, d'alliance, de dot et d'influence pour ouvrir des négociations, tempérer l'hostilité d'un adversaire, ébaucher un compromis dans un procès, transformer un ultimatum en pourparlers de paix. En produisant ses filles devant le prince et ses chevaliers, Dame Emelot avançait de précieux pions sur l'échiquier ducal. Mais une fois le mouvement accompli, il fallait avoir le tact de ne point trop indisposer Blancandin. Le seigneur du trèfle s'y employa. Il fut assez délicat de placer les hôtes. Trop d'hommes appartenaient à la suite du prince. Même en les intercalant avec les familiers du château, leur nombre dominait toujours l'assemblée. Les rituels de table permirent néanmoins au châtelain d'ouvrir le repas dans une relative quiétude. Des pages munis d'une aiguière, d'un bassin et d'une serviette passèrent de convive en convive pour leur permettre de se laver les mains. Puis le seigneur du trèfle fit une brève oraison. Comme on était encore en hiver, il s'agissait d'une prière obituaire. Le maître de maison invoqua le souvenir des disparus qui avaient naguère appartenu à la Ménie et recommanda leur âme à la clémence du desséché. Il fit verser une coupe de vin aux épices qu'un page déposa sur le bord d'une fenêtre. Une attention destinée aux fantômes qui auraient voulu se joindre à la compagnie. Après quoi, tout le monde s'assit et des plats d'anguilles et de gibier furent servis. Préséance oblige, le seigneur et la dame avaient naturellement installé Blancandin entre eux, le châtelain partageant sa coupe et son tranchoir avec le prince. Une place d'honneur bien commode qui permettait de circonvenir le jouvenceau en l'accablant de propos aimables. Celui-ci supportait ce verbiage avec une politesse distraite. Rinfroid voyait bien qu'il considérait le sire de Vaumacel avec attention, mais son expression paraissait plus pensive qu'hostile. Comme c'était à craindre, l'esclandre finit par éclater. Mais il vint d'un des chevaliers du prince.
« En vérité, s'écria Dom de Mauronas, je suis émerveillé par l'effronterie de certains. »
Si quelqu'un vous désoblige, se hâta d'intervenir le seigneur du trèfle, remettez-vous-en à moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer le tort.
Je me désoblige moi-même en m'asseyant à votre table. J'ai grande honte à compagnonner avec ce traître,
gronda le sire de Maubrenas en désignant Edan de Vaumacel. Le châtelain leva une main apaisante.
« Sire Dame, je comprends votre colère et je ne prendrai pas vos paroles en mauvaise part, mais le devoir d'hospitalité est sacré. Il me faut accueillir et protéger quiconque se présente en paix à ma porte, qu'il s'agisse de vous ou du sire de Vaumacel.
N'êtes-vous point avant tout le vassal de Monseigneur Ganon ? Votre premier devoir n'est-il point de jeter dans les chaînes un félon qui s'est soustrait à la justice ducale ?
« Maubrenas, Maubrenas !» intervint Blancandin. « Tu vas un peu vite en besogne. »
Saluant du chef la réprimande du prince, le chevalier de Vaumacel prit la parole.
« J'entends votre courroux, sire dame. Et il m'attriste, car je crois pouvoir me flatter d'avoir été de vos amis. Au nom de notre fraternité passée, permettez-moi de plaider ma cause. »«
Plaider votre cause ?»
pesta Cowir de Thèves. Voilà plus d'un an que vous auriez dû le faire devant la cour ducale. Aujourd'hui, cela n'a plus de sens.
Il n'est jamais trop tard pour répondre de son honneur et de celui d'une dame.
Bavardage ! S'emporta le chevalier de Thèves. Où étiez-vous quand il fallait blanchir Madame Odéhard de cette infamie ? Comment la croire innocente quand le chevalier qui avait flétri sa réputation se dérobait au procès ? Il a fallu que ce soit moi qui descende sur le pré pour défendre l'honneur de la duchesse. »
Le preux tremblait d'indignation. Ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. Il s'empara de sa coupe et la but à grands traits. Dans le tinel, tous les regards glissèrent loin de sa personne afin de lui épargner un surcroît d'humiliation. L'issue du combat judiciaire n'était que trop connue. le champion de la duchesse Odéarde, avait été vaincu par le connétable de Traval.
« Sir Cowir, dit le chevalier de Vaumacel, je vous sais gré d'avoir défendu Madame Odéarde. Le resplendissant mes témoins, j'aurais voulu de toute mon âme répondre aux calomnies devant la cour du duc. Hélas, je n'en avais point la liberté.
Épargnez-nous vos faux fuyants, pesta Dame de Maubrenas. Eussiez-vous été à l'article de la mort, votre devoir était de comparaître. Fût-ce sur une litière.
Il est des raisons plus impérieuses que la maladie ou les blessures.
Quoi donc ?
Ricana le chevalier de Maubrenas.
La perfidie ? La couardise ?
Sire Dame, rétorqua le sire de Vaumacel.
Si je ne craignais d'indisposer nos hôtes, je vous demanderai sur le champ réparation par les armes.
« Seigneur, j'en appelle à votre tempérance, » intervint Rainfroi du Trèfle. « Il me déplairait en effet de juger une querelle qui ne dépend point de ma justice, mais de celle de son Altesse ducale. »
Une assistance inattendue lui fut apportée par Gérian de Froec.
« Sire Rainfroi a raison. Nous devrions lui faire grâce de nos discordes. Du reste, j'ai chevauché plus d'une fois avec le sire de Vaumacel lorsqu'il venait combattre pour le plaisir sous la bannière du comte Anguzel. S'il est un vice qu'on peut difficilement lui reprocher, c'est la couardise. Mes amis, vous lui tenez rigueur de n'avoir pas répondu aux accusations portées contre lui, eh bien, profitons de l'occasion. Laissons-lui la possibilité de s'expliquer.
Tu parles d'or, Froec, ironisa le prince. La plaidoirie doit être léchée. Voilà plus d'un an que Vaumacel la prépare.
Edan remercia le sire de Froec d'une inclination de tête, puis planta son regard dans celui de Blancandin.
Je m'exprimerai sans détour, monseigneur. Et s'il est une personne dans cette assemblée qui pourra attester de ma sincérité, ce sera bien vous. Après tout, nous servions, vous et moi, dans le même banc.
Puis s'adressant à tous les convives, il poursuivit d'une voix ferme.
Il y a 3 ans, alors que je combattais dans le banc du comte de Brockmel, j'ai frôlé la mort. En poursuivant des pillards ou romans, j'ai commis l'imprudence de m'écarter de mes compagnons. Or l'ennemi s'est retourné contre moi. De façon inexplicable, le guerrier qui m'a abattu ne m'a pas achevé. Cela m'a donné à réfléchir. D'autant que ce n'était pas la première fois que je devais la vie à un heureux coup du sort. Pour témoigner ma gratitude au resplendissant, j'ai fait le vœu de servir quelque temps dans l'ordre du sacre. Je ne comptais pas y consacrer le reste de mon existence, mais j'ai prêté serment, comme chevalier à terme, pour un service de 2 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le duché, gagné Sacralia et prêté hommage au conseil de l'ordre.
Agitant la main vers le prince, le chevalier de Vaumacel crut bon de préciser «
Je ne vous apprends rien, monseigneur. Vous vous trouviez également dans la maison mère, poursuivant votre noviciat auprès de l'archichapelain de l'ordre radieux. Malheureusement pour nous, les fausses accusations qui ont flétri la réputation de madame votre mère ont couru comme nous étions outre-mont. Le voyage n'était rien. Se libérer de nos vœux s'est révélé autrement difficile. Quand j'ai appris que j'étais convoqué à la cour ducale, j'ai demandé au conseil de l'ordre d'être temporairement relevé de mon service. Cela m'a été refusé. Le grand maître venant sans personne m'a fait connaître le rejet de ma requête. J'ai insisté, ce que les dignitaires de l'ordre ont peu apprécié, me rappelant à la vertu d'obéissance. Dès lors, quoi qu'il m'en coûtât, que pouvais-je faire? La courtoisie m'imposait de prendre la défense de Madame Odéarde. Mais l'honneur me contraignait de respecter les termes de mon hommage. Je ne vous cacherai pas combien cruel fut le dilemme. Finalement, j'ai tranché pour une décision qui, bien qu'elle portât atteinte à ma réputation, me permettait de concilier l'honneur avec la courtoisie. J'ai d'abord terminé mon service dans la principauté du Sacre. Puis je suis rentré au duché pour rétablir l'honneur de la duchesse.
Baliverne !
Aboya Dame de Maubrenas.
Nous qui avons défendu Madame Odéarde, nous peinons déjà à vous croire. Quand sera-t-il? Quand vous vous présenterez devant le duc ou son chancelier? Vous aurez bien de la chance si l'on ne vous jette séant dans un cul de basse-fosse.
Vous dites vrai quand vous affirmez que vous serviez dans la principauté du Sacre et que le Conseil de l'Ordre a refusé de vous libérer,
dit Blancandin sur un ton plus froid.
Mais que n'avez-vous pris une initiative semblable à la mienne? Je suis parti de mon propre chef. Si j'arrive trop tard, c'est parce que j'ai été rattrapé et capturé par les chevaliers du Sacre, puis gardé prisonnier de longs mois dans les cellules de l'Ordre radieux. Il m'a fallu m'évader pour revenir enfin au duché. Vous qui avez plus d'expérience que moi, vos Macelles, vous auriez pu plus facilement vous affranchir du despotisme de l'Ordre et passer entre les mailles du filet.
Monseigneur, répondit Edan, j'avais donné ma parole à l'Ordre, et non à Madame votre mère. Si j'avais rompu mon serment, j'aurais donné raison aux médisants qui m'ont accusé d'un commerce coupable avec la duchesse.
Finasserie de clerc, s'irrita le prince. Vos discours sont indignes d'un chevalier.
Un preux qui retire sa parole se met au banc de la chevalerie.
Et quoi? Auriez-vous le front de m'accuser d'avoir manqué à la mienne?
Monseigneur, j'admire votre courage et la piété que vous portez à Madame votre mère. Toutefois, en rompant vos vœux, vous n'avez pas servi sa cause.
Et quelle cause aurais-je donc servi? Vous êtes peut-être mon aîné, vos Macelles, mais j'ai plus de sagesse que vous. Apprenez ceci. Il faut savoir reprendre sa parole quand la personne auprès de qui vous l'avez engagée n'en est plus digne. Avais-je la vocation pour entrer dans l'Ordre radieux? Aucunement. Je respectais juste la volonté de mon père. Du reste, je n'ai jamais porté que le manteau de novice, et je n'ai prononcé aucun vœu solennel. Aussi, quand mon père a souillé la réputation de la duchesse, n'étais-je plus tenu par nulle loyauté, sinon par celle due à Madame ma mère. Voilà pourquoi je me suis affranchi de l'autorité de l'Ordre. Et j'ajouterai ceci. Le principe qui a gouverné ma conduite aurait également dû régir la vôtre. Le refus de vous laisser comparaître devant la cour ducale était illégitime. Vous auriez dû passer outre.
L'expression d'Edan se fit rétive. Selon vous, il était sage de violer la décision prise par un conseil intègre pour se soumettre à une cour douteuse.
Ne vous laissez pas éblouir par le soleil royal qu'affichent les armes de l'Ordre. Sous leur manteau de paladin, les chevaliers du Sacre cachent leur part d'ombre.
Peut-être le conseil avait-il des raisons secrètes.
J'incline même à croire que le grand maître Venance m'a retenu par amitié, craignant pour ma vie si je me présentais au procès. Quels que fussent ses motifs, il ne m'appartenait pas de les juger.
La vraie raison des obstacles que l'Ordre nous a opposés était bassement politique,
s'anima Blancandin.
En guerre contre les peuples barbares d'Ouromagne et de Féménie, la principauté du Sacre dépend des renforts de Bromel et de l'Ordre Tchoudalia. Nous libérer de nos obligations pour défendre Madame ma mère, c'était courir le risque de déplaire au duc et au podestat de la République tchoudalienne. Les chevaliers du Sacre nous ont retenus au mépris de leurs propres valeurs d'honneur et de justice, uniquement par intérêt diplomatique. Voilà pourquoi leur décision était nulle et non avenue, mais que nous importe. Le mal est fait, et je ne suis pas rentré pour faire procès à l'Ordre. Vous prétendez être revenu pour rétablir l'honneur de la duchesse, vos Macelles? Vous piquez ma curiosité. Comptez-vous prendre d'assaut sa prison de Mondoir? Cachez-vous dans votre manche un synode prêt à annuler le mariage de mon père avec la putain tchoudalienne? Disposez-vous d'un trésor qui rivalise avec les largesses que vient de prodiguer le duc pour célébrer la naissance de son petit bâtard?
Le seigneur du trèfle, qui souffrait ce débat avec embarras, crut bon de modérer le prince.
« Monseigneur, lui dit-il en lui posant doucement la main sur l'avant-bras, je comprends votre contrariété et je compatis aux épreuves que vous avez traversées. Cela étant, je ne puis tolérer des propos si outrés sous mon toit. Que vous n'éprouviez nulle sympathie pour la jeune duchesse, je vous le passe volontiers, mais enfin, Madame Clarissima est de vieille et puissante noblesse. Son père a vaincu le royaume de Récine et chassé ses ennemis hors de la République de Tchoudalia. Par-dessus tout, vous ne pouvez parler ainsi de l'épouse de Monseigneur votre père.
Vous avez raison, rétorqua Blancandin. On ne peut parler ainsi de l'épouse de mon père. La seule que je connaisse est Madame ma mère. Or mon père, quant à lui, ne s'est pas gêné pour la traiter en putain. Son Altesse Ducale a respecté la coutume de Bromel et le droit cyclothéiste.
Au cours d'un procès où le principal témoin s'est dérobé, au lendemain duquel le duc divorcé a épousé une fille qui a mon âge, qui est plus jeune que mes frères aînés, tout cela est une farce, sire Rinfroi, une farce infamante. Et quand bien même ma mère aurait eu une inclination pour ce petit chevalier, mon père ne se gêne pas pour entretenir ces bâtards dans son hôtel, et je ne sache pas que quiconque lui en ait jamais fait procès. »
Cette tirade du prince provoqua la bruyante approbation des chevaliers de sa suite.
« Vous-même, poursuivit perfidement Blancandin à l'adresse du châtelain, n'êtes-vous point révolté par le sort réservé à Madame ma mère ?»
Le seigneur du trèfle masqua sa gêne derrière une expression chagrine.
La déesse m'en soit témoin. J'ai toujours eu beaucoup de respect et, j'ose le dire, une grande admiration pour cette haute dame. Pour vous parler à cœur ouvert, j'ai d'abord eu la certitude que ces accusations n'étaient que calomnies. Et je peine toujours à croire ce qui lui est imputé. Toutefois, alors que vous étiez si malencontreusement empêché, j'ai assisté au procès. Les témoignages de la dame de L'Aulnay et de la baronne de Brigord étaient accablants, et le chevalier de Vaumacel ne s'est pas présenté pour les réfuter.
Un rire mordant accueillit ces derniers mots. Rejeté contre le dossier de son siège, Cowyer de Thèves coulait un regard narquois au châtelain.
« Le témoignage de la Delaulnay !» ricana-t-il. « Sire Rinfroi, vous êtes trop fin renard pour vous faire duper par cette chatmite !»«
Je vous accorde que la dame a la langue bien pendue. Mais c'est une chose de commérer au cours d'un bal ou d'un banquet, c'en est une autre de mentir devant une cour de justice. »«
Pour mon infortune, je ne connais que trop cette mégère !» rétorqua le chevalier de Thèves. Elle est l'épouse de mon cousin Ollier. Nous nous partagions la seigneurie du château de Vernejoul, mais depuis que Madame Odéarde m'a entraîné dans sa chute, mon bon cousin a fait main basse sur l'ensemble du fief. Quant à la vertueuse Parvule de L'Aulnay, n'est-elle point entrée dans l'hôtel de la fausse duchesse?
Vos cousins, es-tu l'inélégance de profiter de votre disgrâce ne prouve nullement qu'ils ont menti,
argua le seigneur du trèfle.
Et encore moins la baronne de Brégor, qui ne nourrit point de grief contre vous.
Contre sire Cowyer, non, observa le chevalier de Vaumacel. Contre moi, en revanche, oui. La vindicte dont je suis l'objet de la part de Dame Erambourg n'est pas un secret.
Il coula un demi-sourire à Ivorin de Kéan, qui se rembrunit quelque peu.
En outre, poursuivit Edan, j'ai déjà fait l'expérience de sa rouerie. Je ne serais pas étonné d'apprendre que la baronne a accusé Dame Odéarde uniquement dans le dessein de me nuire.
Venant au secours de son mari, Émelot du Trèfle s'invita dans le débat.
« Seigneur, je suis émerveillé qu'au nom de la défense d'une dame, vous en vilipendiez trois autres. Je rougis d'entendre des paroles si discourtoises à ma propre table. Vos persiflages me placent dans une situation fâcheuse. » Quand je me trouverai en présence de ces dames, je me verrai contrainte de dissimuler. Vous conviendrez que ce n'est guère prévenant à mon égard.
Vous avez mille fois raison, dame, approuva Ivorin. Quoique je n'aie en rien contribué à ces vilenies, je m'en veux de leur avoir seulement prêté l'oreille. Je vous prie de m'excuser de n'y avoir point coupé court avant vous.
Seriez-vous partisan de la Tchoudalienne ?
Lui lança le prince. «
Je suis trop pauvre chevalier pour avoir eu le privilège d'être présenté à cette dame. En revanche, j'ai juré de défendre l'honneur de la baronne de Brégor, et je suis bien fâché que la convention qui me lie à Sire Edan m'empêche de lui demander raison. Quoi qu'il en soit, à part vous,
Monseigneur, il me semble que nul parmi nous n'est assez bien né pour critiquer ces hautes dames. »
Voici un mot aussi preux qu'il est courtois, sourit la dame du trèfle.
Le mot était suffisamment preux pour avoir indisposé plus d'un convive, mais, par respect pour leur hôtesse, les sires de Thèves et de Vaumacelle ravalèrent leur riposte. Le prince en personne prit sur lui pour faire amende honorable.
« Je ne peux que saluer votre tact, » dit-il à sa voisine, « et je vous remercie de nous avoir rappelés à la bienséance. Après tout, je suis revenu dans le duché pour défendre l'honneur d'une dame, non pour faire outrage à d'autres. »
Se tournant ensuite vers Adan, il poursuivit sur un ton teinté d'ironie,
« Je suis fort aise de constater que vous êtes revenu dans le même dessein. Mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Comment comptez-vous procéder pour restaurer madame ma mère dans toutes ses dignités ?»«
J'entends me faire seconder par quelques personnes de haut parage. En leur compagnie, je me présenterai devant la cour ducale. J'expliquerai le motif de mon absence et je rétablirai la vérité. »
« En toute simplicité !» s'esclaffa le prince. « Et croyez-vous vraiment qu'on vous y entendra ?»«
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. »«
Vous moquez-vous ? » rétorqua Blancandin. « Vous n'êtes pas naïf au point de vous comporter si sottement. »«
Peut-être serai-je appuyé par un parti plus fort que vous ne le soupçonnez, voire plus fort que je ne le soupçonnais moi-même, si vous joignez votre parole à la mienne. »
Le prince partit d'un franc éclat de rire, qui fut repris par les ricanements des chevaliers de sa suite. « Non, Vaumacelle, vous ne vous moquez point. Vous êtes encore plus fou que je le croyais. »
Retrouvant son sérieux, il continua avec colère.
« N'avez-vous trouvé rien de mieux que de vous jeter dans la gueule du loup ? Ne savez-vous pas que le duc est en train de lever le ban ? Qu'il a rallié mon demi-frère Lanval ? Sorti de sa disgrâce par la répudiation de madame ma mère, que mon autre demi-frère, le grand bâtard, racole force compagnie de soudoyer avec lord Tchoudalia, nous ne serions pas même capables d'approcher à 10 lieues du séjour de mon père. Au terme d'un beau combat livré à 1 contre 100, nous aurions l'honneur d'aller croupir au fond d'un cachot de Mordune ou de Traval. »
Vous noircissez peut-être le tableau,
tempéra le seigneur du trèfle.
« Envoyez un émissaire à son Altesse ducale pour l'éclairer sur le caractère honorable de vos intentions. Présentez-vous ensuite humblement devant lui. Je ne doute pas qu'il vous fera bon accueil. »«
Oh, certainement !» railla Blancandin. « Et une fois qu'il aura mis mes compagnons en cage, il se fera un plaisir de garder le fils prodigue à sa cour, estimant plus facile de l'y surveiller qu'à Sacralia. Non, sire Rinfroid, je ne me livrerai pas à mon père, pieds et poings liés. »
« Dans ce cas, monseigneur, permettez-moi de vous retourner la question. » Repartit Edan. « Comment comptez-vous restaurer l'honneur de madame la duchesse ?» Blancandin coula un coup d'œil aigu au sire de Vaumacelle. Au lieu de lui répondre, il préleva une cuisse de faisan sur son tranchoir et en attaqua la chair ferme à belles dents. Puis il leva sa coupe jusqu'à ses lèvres, but quelques gorgées et interpella ses gens.
« Chevalier, poursuivons-nous comme convenu ?»«
Nous sommes là pour cela, » dit sans balancer le sire de Froec. « J'ai perdu toute confiance dans ce couard, » gronda le sire de Maubrenas. « Qui nous dit qu'il ne nous abandonnera pas ?»
« Moi non plus, je ne me fie plus à ce traître !» maugréa le sire de Thèves. « Mais le service de madame la duchesse passe avant mon sentiment. »«
Eh bien !» persifla le prince.
« Il semble que vous obteniez tous les suffrages, Vaumacelle. »
Il appuya la pointe de son couteau sur la table et le fit tourner un instant dans sa main.
« S'il est sincère, votre projet d'aller trouver mon père est tellement stupide que je ne puis vous laisser commettre pareille ineptie. Alors, jouons franc jeu.
je vais vous dire ce que je compte entreprendre. Et je vais même vous proposer de vous associer à moi, parce que, comme l'a si bien dit Thève, le service de madame ma mère passe avant mon sentiment. »
Se tournant d'un air plus aimable vers le seigneur du trèfle, le Jouvenceau jugea bon de préciser.
« À l'origine, sire Rinfroi, l'objet de ma visite était de vous transmettre une invitation. Je vais me faire un plaisir de vous la communiquer. Et je ne doute pas que vous en instruirez la cour ducale. Mais je vais profiter de la présence du chevalier de vos macelles pour faire d'une pierre deux coups. Cela m'épargnera d'ailleurs la peine de le faire rechercher. »
Affichant un sourire insolent, le jeune prince poursuivit d'une voix forte.
« Apprenez, mes seigneurs, que d'ici un mois, à l'occasion des fêtes de Prémvère, le comte de Quimarc me chaussera les éperons. Pour célébrer mon entrée dans l'ordre de chevalerie, le comte Anguzel organise un grand pas d'armes à Lindinas. L'enjeu des combats sera la bannière de madame ma mère, au sommet de la tour de Lindinas. Avec mon frère Méléagant, nous défendrons le seuil de la tour. Parmi les gardiens du pas, chacun accrochera 3 brins d'immortels sur sa cotte d'armes pour honorer les 3 engemmes d'or des armoiries de madame ma mère. Avec tous les chevaliers qui épouseront notre cause, nous entendons bien défaire les preux qui se rangeront chez l'assaillant. Nous serions fort aises de vous y affronter, sire Rinfroi. Dans la journée, vous pourrez ainsi montrer votre loyauté à mon père, ce qui ne nous empêchera point de festoyer ensemble dans la soirée. »
Si courtoise fut-elle, l'invitation n'eut pas l'air de ravir le seigneur du trèfle.
« Entrer en chevalerie vous fermera pour longtemps les portes de l'ordre radieux, » observa-t-il d'un air soucieux.
« Je m'en réjouis d'avance, » se félicita Blancandin.
« Quant à recevoir votre épée du comte Anguzel, la collée sera pour vous, mais le coup pour son Altesse ducale. Vous lui ferez doublement injure.
À la bonne heure, existe-t-il meilleur appel aux armes ?»
S'adressant à nouveau à Edan, le jeune homme poursuivit avec feu.
« Qu'en dites-vous, vos macelles ? N'est-ce pas une prouesse plus digne de votre bras ? Vous vouliez témoigner en faveur de madame ma mère. Quel témoignage sera plus éclatant que celui que nous livrerons sur la lys ? Vous souhaitiez l'appui de grand seigneur ? À Lindinas, vous aurez le mien et celui du comte Anguzel. Vous aurez également celui de tous les chevaliers qui arboreront des brins d'immortels. Cela vaudra toutes les chicanes devant une cour scélérate. Quelle que soit la fortune de nos armes, et j'entends bien interdire l'entrée du pas, la gloire de ces combats redorera le blason de madame ma mère. Et pour vous comme pour moi, qui lui avons si cruellement manqué, ce sera plus qu'un pas d'armes, ce sera notre pardon d'armes. Il ne tiendra qu'à notre vaillance d'effacer nos défaillances. Qui sait ? Peut-être y regagnerez-vous jusqu'à l'estime de ces chevaliers qui vous honnissent ?
Edan accueillit ces paroles d'un air pensif. Il jaugea le prince du regard. Sans doute l'enthousiasme du Jouvenceau lui parut-il sincère.
« Vous me surprenez, monseigneur, » lui dit-il. « Je ne m'attendais pas à ce que vous dépassiez si aisément les préventions que vous avez à mon égard. Cet appel à combattre dans votre conroi m'honore, et je crois que vous avez raison. En m'exposant moins à une perfidie, ce pardon d'armes me donnerait plus de chances de me faire entendre.
En vous liguant de la sorte, vous feriez grand bruit, c'est certain, »
admit le seigneur du trèfle sur un ton de regret.
Si grand bruit à la vérité que son Altesse ducale risque d'en être assourdie. Un juge se doit d'écouter. Un capitaine se doit de vaincre. Le défi que vous envisagez de jeter à la face de monseigneur Ganelon risque de nuire plus que de profiter à Dame Odéarde. N'oubliez pas que son Altesse a appelé le banc, que la noblesse de Bromel sera renforcée par de nombreux routiers. Que ferez-vous si, pour relever votre gant, toute l'armée ducale se présente à Lindinas ?
Nous serons sur les terres de Kimark, répliqua Blancandin. Le comte Anguzel nous appuiera avec son banc.
Le comte Anguzel s'est incliné au cours de la dernière guerre. Il tient désormais son comté des mains de Monseigneur votre père, à qui il a dû céder la seigneurie d'Ouchain.
Eh bien, ce sera peut-être l'occasion d'une revanche pour Kimark, lança le prince.
D'autant que le duc n'aura pas forcément le renfort de tous ses vassaux, intervint Cowir de Thèves. Par sa lignée, Madame la Duchesse possède des partisans ardents dans la noblesse de Bellestance. Il pourrait bien quitter la bannière de Bromel pour embrasser notre cause.
Du reste, ce sera une grande fête, non une guerre, nuança Blancandin. Se rallier aux défenseurs du pas n'aura rien d'une félonie.
La finesse de l'argument fit fleurir les sourires matois parmi les chevaliers de sa suite, sans dissiper les réticences de leur hôte.
« Alors, Vaumacelle, apostropha le prince, êtes-vous décidé? Laverez-vous votre nom sur le pas de l'Indinas ?»«
Monseigneur, l'occasion est trop belle, » répondit le chevalier. « J'aurai grande fierté à fleurir mon harnois de quelques brins d'immortels. Je ne mettrai qu'une condition à cet engagement. Je ne me joindrai à vous que si le seigneur Rinfroi m'y autorise, car je dois au préalable me soumettre à son jugement. »
« Quel est donc ce faux fuyant ?»
se récria Dame de Maubrenas.
« Vous vous dérobez à la justice du duc, mais vous vous placez entre les mains d'un de ses vassaux ?»
s'offusqua Cowir de Thèves.
« Quelle fourberie méditez-vous ?»«
Seigneur chevalier, j'aurais bien du mal à combattre à vos côtés si vous persistez à m'insulter de la sorte, »
répliqua Edan avec raideur.
« Je me suis déjà expliqué, il y a un an, je n'étais pas libre de mes initiatives. Je le suis aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vais me soumettre au jugement du seigneur Rinfroi. Non au sujet de la duchesse, mais à propos d'une affaire concernant ces gens.
L'expédient est trop facile, pesta le sire de Maubrenas. De quelle affaire parlez-vous donc?
S'impatienta Blancandin.
D'un incident assez malheureux avec les manants de Chanevier, dit Edan. J'en ai touché deux mots à Sir Rinfroi tout à l'heure, mais nous avions convenu de remettre le jugement à un moment plus propice.
« Un incident avec des manants ?» s'offusqua le prince. « En quoi pareille vétille pourrait-elle peser sur votre ralliement ?»«
Pour être gens de peu, ces vilains n'en dépendent pas moins de la seigneurie du trèfle, » objecta Edan. « Je manquerais à l'honneur, à la courtoisie et à la coutume, si je n'en répondais pas devant notre hôte.
Eh bien, réglez cela sans tarder. Je veux que vous me donniez une réponse franche et non une astuce à la sauce de celle que vous nous avez déjà servie.
La dame du trèfle éleva les mains.
Allons bon, protesta-t-elle. Nous n'allons point tenir jugement au milieu du repas.
Pourtant, vous m'obligeriez fort en le faisant, rétorqua Blancandin.
« Malgré tout l'agrément de votre accueil, je ne compte pas vous importuner très longtemps. Après tout, Sire Rinfroi, vous restez l'homme de mon père. En repartant demain, je souhaiterais être fixé sur le soutien de Vaumacelle au pas de l'Indinas. Puisque sa décision est soumise à la vôtre, pourriez-vous nous faire la grâce de trancher rapidement ?»«
Pour ma part, » dit Edan, « je ne vois pas d'objection à plaider dès ce soir. » Comme Monseigneur Blancandin, je comptais vous quitter au matin. La piste que je suis risque de refroidir. Plus tôt je serai jugé, plus tôt je serai libre de mes mouvements. Si toutefois, Sir Rinfroi m'accorde l'élargissement.
Un différend avec des rustres, se rit le prince. La question est toute réglée.
À moins, bien sûr, que cette extravagance n'indispose trop nos hôtes,
objecta poliment Edan.
« Je m'en remets à mon époux, »
énonça la dame du trèfle d'un air pincé. « À tout prendre, je préférais vos querelles sur le procès ducal. Devisez de vilain au souper, on aura tout entendu. »
Le châtelain ne balança qu'un instant sur la conduite à tenir.
Quelle que fût la faute commise par le sire de Vaumacelle, il était évident qu'elle ne pèserait guère dans son jugement. Tout le problème consistait à ne point trop désobliger l'un des partis en présence. En acceptant de précipiter sa sentence,
Rhinfroid semblait pencher pour la ci-devant duchesse. Mais s'il emprisonnait le chevalier, il rendait un service éclatant au duc. Service que le comte Anguzel lui ferait payer d'une façon ou d'une autre. Le plus prudent aurait été d'ajourner, en renchérissant sur les réticences de sa dame et en arguant des usages. L'échappatoire, toutefois, était trop voyante. En définitive, le caractère pusillanime de cet atermoiement risquait de mécontenter tout le monde.
« Quoique je déroge à ma coutume, » dit lentement le seigneur du trèfle, « je consens à traiter cette affaire sans plus tarder par égard pour mes nobles invités. Sire Rhinfroid, vous êtes la sollicitude incarnée, »
loua le prince avec quelque légèreté.
« Votre bienveillance me donne raison dans la démarche que j'ai entreprise auprès de vous, » salua le chevalier de Vaumacel.
« Ne passez pas trop vite aux remerciements, » tempéra le châtelain. « Eh bien, sire Edan, puisque vous êtes venu plaider votre cause et que tout le monde est si pressé, au fait, exposez-moi votre affaire. »
Les hauts hommes de la suite du prince se rencoignèrent dans leur siège en toisant le chevalier, curieux de cette nouvelle indignité et tout prêts à jouer les assesseurs de l'audience. Quant à Blancandin, il fit mine de se désintéresser de l'échange en allant piocher dans les plats. Seul l'arrêt que prendrait son hôte retiendrait son attention. Il le lui fit bien sentir.
« Sire Rhinfroid, » dit Edan, « j'ai souhaité faire amende honorable pour une regrettable échauffourée. Je crains d'avoir rudoyé quelques-uns de vos manants. Voici les circonstances. Hier, j'ai fait étape à Chanevier. J'avais entendu dire qu'un enfant du finage avait disparu depuis peu, et je souhaitais m'enquérir sur les circonstances de cette disparition.
À quelle fin ?
L'interrompit le seigneur du trèfle d'un air surpris.
Chanevier dépend de ma justice, non de votre protection.
J'en ai bien conscience, et je n'entendais nullement empiéter sur vos prérogatives. Il se trouve simplement que des enfants ont disparu dans d'autres seigneuries, et que j'ai une affaire personnelle avec celui ou ceux qui pourraient être les ravisseurs. C'est pour cette raison que j'ai pris la liberté d'interroger vos gens, nullement pour me substituer à votre justice.
Je croyais votre retour motivé par le service de Madame la Duchesse,
intervint assez vivement le sire de Thèves.
C'est la vérité, confirma Edan.
Dans ce cas, qu'avez-vous à vous embarrasser de gueux disparus?
Si je les retrouve, peut-être restaurerai-je mon crédit pour la défense de Dame Odéarde.
En délivrant des vilains,
ricana Dame de Maubrenas.
Qui sait, dit le chevalier de Vaumacel. Le malheur des humbles est souvent le fait des grands. J'incline à croire qu'il y aura force prestige à gagner en remontant jusqu'à l'origine de ces raptes.
Connaissez-vous l'identité des personnes que vous poursuivez?
Demanda le seigneur du trèfle.
Pas encore, sire Rhinfroid, mais je fais quelques conjectures. Ce sont des voyageurs, et même probablement des étrangers au duché. Ce sont des cavaliers, car des traces de chevaux ont été relevées sur plusieurs sites d'enlèvement. De surcroît, ils sont d'une merveilleuse discrétion. Je ne serais pas étonné qu'ils utilisent quelques charmes pour traverser la province en restant inaperçus.
Voici des perspectives bien mystérieuses. Toutefois, elles ne m'éclairent en rien sur la faute que vous vous reprochez.
J'y arrive, sire Rhinfroid. Hier soir, j'avais établi les meilleurs rapports avec vos gens. Hélas, ce matin, leur sottise nous a précipités dans un fâcheux malentendu. Je venais de quitter Chanevier lorsque j'ai eu l'honneur de rencontrer Sire Ivorin. Nous avons échangé des mots un peu vifs sur l'opinion que la baronne de Brégor se fait de ma personne. Dans le respect des usages, nous avons réglé cela sur le pré. Hélas, les vilains de Chanevier ont cru que j'affrontais le chevalier de Kéan parce que j'avais démasqué leur ravisseur. J'ai voulu rétablir la vérité, mais autant prêcher à un troupeau d'ânes. Il y a eu bousculade.
deux femmes ont été renversées par un de mes chevaux, et j'ai dû sévir lorsqu'un manant a voulu frapper mon page. Il y a perdu la main, mais non la vie. Du moins, je l'espère, car j'ai veillé à ce qu'on lui posât un garrot. Si je ne m'abuse, il s'agit du père de l'enfant disparu. Et quoiqu'il fût responsable de ma riposte, je dois vous avouer que cette circonstance me navre particulièrement. Voilà, sans déguiser, la faute que je souhaite soumettre à votre jugement.
Gérian de Froec et Dame de Maugrenas haussèrent les épaules. Pour eux, l'affaire était entendue. Même aux yeux de ses détracteurs, le sire de Vaumacel était dans son droit.
Permettez-moi d'ajouter quelque chose, intercéda Ivorin. Par modestie ou par tact, sire Edan ne dit pas tout. C'est afin de me défendre qu'il s'est mis dans cette situation. Pour ma part, j'étais si furieux de me trouver pris à partie par des gens de rien que j'étais tout prêt à les oxyre. Or, sire Edan m'a retenu. Grâce à sa mesure, je n'ai pas de tâche sur la conscience. Seul le resplendissant sait combien de manants ont été épargnés.
Le seigneur du trèfle accueillit ces mots d'un léger hochement de tête. Prenant un air grave, il s'octroya le temps de la réflexion. Il ne délibérait pas sur le verdict à prononcer, mais sur le moyen de ne point se compromettre. Évidemment, il aurait pu gagner du temps en ajournant sa décision. Il suffisait de prétexter qu'il avait scrupule à rendre un jugement tant qu'il n'avait pas entendu les manants de Chanevier. Il écarta aussitôt cette idée. Même si, en fin de compte, il blanchissait le sire de Vaumacel, l'argument aurait laissé entendre qu'il accordait autant de considération à la parole des vilains qu'à celle des hauts hommes. Cela aurait insulté l'ensemble de ses invités tout en dévoilant son propre jeu. Il ne pouvait différer l'élargissement. Il le pouvait d'autant moins que le chevalier de Vaumacel s'était spontanément livré. Mais s'il agissait dans le respect du code courtois, alors il donnerait le sentiment d'épouser la cause de Blancandin sans escrègne et d'Anguzel de Quimarc. Il ne se représentait que trop la colère du duc quand celui-ci apprendrait que son vassal avait laissé filer l'amant de la ci-devant duchesse en compagnie de son fils rebelle. Il s'agissait donc de ménager la chèvre et le chou, ce qui ne tromperait personne, mais permettrait peut-être de laisser passer l'orage. Faute de mieux, il opta pour une disposition oblique.
« Je vous sais gré pour l'honnêteté de votre démarche, » dit-il au seigneur de Vaumacel. Dans pareilles circonstances, quantité de chevaliers se seraient estimés dans leur bon droit et aurait négligé d'en référer à mon autorité. Votre droiture, la déclaration du chevalier de Kéan et jusqu'à l'opinion de ces seigneurs, qui ne vous portent pourtant pas dans leur cœur, témoignent en votre faveur. Je suis quand même fâché que le père de l'enfant disparu ait été mutilé dans la bousculade. Il était ici même il y a quelques jours. Je vous accorde que ce grand rustre n'avait rien d'une lumière. Je n'ai même pas entendu le son de sa voix. Mais enfin, il était appuyé par un laboureur et par la prieure de son finage. Il est des solidarités villageoises qu'il vaut mieux éviter de froisser, surtout s'il s'y mêle un sentiment d'injustice, fondé ou non.
« Je ne l'ignore point, » dit Edan, « et c'est pourquoi je suis venu vous rendre des comptes.
Je vous en remercie, chevalier. » Il va sans dire que je ne vous tiens point pour fautif en cette affaire et que je m'avilirai en vous condamnant, mais convenez avec moi que, fût-ce à votre corps défendant, vous avez jeté de l'huile sur le feu à Chenevier. Si ces vilains apprennent votre relax, ils vont me ranger dans le sac d'infamie où ils vous ont jeté. Dès lors, j'aurai plus de mal à les soumettre aux corvées et aux sens. Je risque surtout d'avoir à châtier des insolences. Or, il me déplairait de faire usage de la force contre ces gens que le sort vient de frapper. C'est pourquoi, sire Edan, en contrepartie de ma clémence, je vais vous demander un service.
Je suis tout prêt à faire pénitence devant vous et cette noble assemblée,
rétorqua le chevalier. Mais n'attendez pas de moi que je m'abaisse à présenter des excuses à des gens de peu.
Rassurez-vous, je n'aurai pas de telles exigences. En revanche, j'ai entendu que vous étiez sur la piste des ravisseurs d'enfants. À défaut de lui rendre sa main, peut-être pourrions-nous donner au père du jeune Aniel plus ample nouvelle de son fils. Si j'étais en mesure de présenter à Chanevier la clé de cette affaire, à tout le moins les restes de l'enfant ou le nom de son ravisseur, j'aurais les moyens de calmer les rancunes. Pour m'aider dans cette tâche, seriez-vous disposé à poursuivre votre quête incontinent et à m'en tenir informé ?
Le chevalier de Vaumacelle ébaucha un sourire.
« Sire Rinfroi, dit-il, en me présentant cette requête, vous m'accordez une faveur plus que vous ne me la demandez. Je serai fort aise de répondre à vos attentes. »
« Dans ce cas, répondit le seigneur du trèfle, je prononce votre élargissement de bonne grâce. »
Edan s'apprêtait à remercier quand il fut coupé par le prince.
« Un instant, s'écria Blancandin. Nous convenons bien que Vaumacelle est libre et qu'il pourra combattre à l'Indinas.
Le chevalier est libre d'aller où bon lui semble,
fit Nassar un froid.
Pourvu qu'il respecte les termes de notre accord.
Je serais fort désappointé si cette quête lui faisait rater le pardon d'armes,
avertit le prince sur un ton contrarié.
« Monseigneur, ai-je mis quelque obstacle à vos entreprises ?»
se défaussa le châtelain.
« Je suis certain que Sir Edan a suffisamment de ressources pour mener deux affaires de front. »
L'intéressé salua le compliment sans se départir de son demi-sourire.
« Et je m'y emploierai, » affirma-t-il. « Je ne saurais déplaire à deux seigneurs qui me traitent avec tant de libéralité. » « Joliment dit. »
grommela Dame de Maubronnas.
Et quelle assurance avons-nous que vous viendrez à l'Indinas? Ma parole ne vous suffit-elle point? Nous avons vu ce qu'il en était quand vous êtes soumis à des devoirs contradictoires.
Je ne m'étais point engagé à paraître au procès de Madame la Duchesse. Je le suis à vous rejoindre à l'Indinas. Vous m'offenserez si vous ne faites point la distinction. D'autant que nous sommes aux portes du comté de Kimark. Notre rendez-vous n'est qu'à deux ou trois étapes du trèfle. J'ai largement le temps de poursuivre mes recherches avant d'arborer les brins d'immortels. » Non sans impulsivité, Ivorin de Kéan s'invita dans la controverse. « Ces chicanes sont indignes de gens bien nés, » lança-t-il. « Moi, je veux croire en la bonne foi de Sir Edan. Alors voici ce que je propose. Laissons-le accéder à la requête du seigneur Rinfroi. Pour ma part, je m'engage dans votre conroi, monseigneur Blancandin, où je représenterai Sir Edan. J'entends bien remporter armes et chevaux au pas de l'Indinas, mais je viendrai également en tant qu'otage. Si le chevalier de Vaumacelle ne se présente pas au tournoi, je me tiendrai pour votre prisonnier. En sorte que le chevalier, à qui je dois déjà mon harnois et mon destrier, n'en verra pas la couleur puisqu'ils seront vôtres. Voilà pour votre assurance, sire dame. S'il n'arrive point à temps, Sir Edan y perdra à la fois ma rançon et mon estime.
Voici une initiative aussi courtoise qu'imprudente, observa Cowir de Thèves.
C'est le cœur léger que je la prends, rétorqua Ivorin. J'ai pu juger de l'honneur du chevalier de Vaumacelle. Je suis persuadé qu'il tiendra parole.
Je ne vous en demandais pas tant, glissa Edan au bachelier.
Soyez attent à l'Indinats, répliqua celui-ci. Et de mon côté, je me fais fort de gagner sur la lice ce que je vous dois.
La déesse soit louée, se réjouit le seigneur du trèfle. Puisque le chevalier de Kéan se porte garant de Sir Edan, voici un accommodement qui satisfera chacun d'entre nous.
Sentant bien que le prince restait soupçonneux, il se hâta d'ajouter,
comme vous l'aviez prévu, monseigneur, je me comporterai en loyal baron de son Altesse ducale. J'enverrai dès demain un émissaire à monseigneur Ganelon pour l'informer de votre visite et de votre appel au pardon de l'Indinas. Je lui ferai également savoir que le chevalier de Vaumacelle s'est engagé à combattre dans votre conroi.
À demi tournés l'un vers l'autre, le jouvenceau et le châtelain échangèrent un regard où perçait un mélange de défiance et de connivence. Rinfroi du trèfle
pensait avoir cerné la motivation de Blancandin. Compte tenu de la piètre estime du prince pour Edan, la nouvelle du ralliement du chevalier importait davantage à ses yeux que sa réalité effective. Il s'agissait surtout de provoquer l'autorité paternelle. Le jeune homme finit par condescendre une brève inclination de tête. Adressez également à mon père le défi de mon frère Méléagan, qui portera avec moi l'immortel, précisa-t-il, et n'omettez point de lui transmettre l'assurance de notre respect filial. Le seigneur du trèfle accepta avec une serviabilité d'autant plus empressée qu'il était ravi d'avoir ainsi négocié cette passe délicate.
Je ferai tout pour me rendre à Lindinas avant un mois et honorer la confiance de Sir Ivorin, s'engagea le chevalier de Vaumacel. À cette fin, je me mettrai en quête dès demain. À Chanevier, j'ai appris qu'un deuxième enfant avait disparu dans un de vos finages, Sir Rinfroi.
En effet, confirma le seigneur du trèfle. On est sans nouvelles d'un autre petit gueux à Goborchin, au pied des hautes terres d'Agurande. J'y avais envoyé quelques sergents et des chiens, mais ils sont revenus bredouilles.
Avec votre permission, je m'y rendrai au plus tôt.
C'est tout ce que je vous demande. Restez toutefois sur vos gardes. Les vilains se montent la tête avec des contes à dormir debout à propos d'une mauvaise fée. Mais le péril est réel. Il rôde derrière les lisières des forêts d'Agurande, où il prend l'allure du molosse d'Ouchin et de sa bande. Méfiez-vous des brigands, peut-être devrez-vous en découdre avec eux. Je ne serai pas surpris d'apprendre que ce sont nos voleurs d'enfants.
Quoiqu'il ne recule devant aucune cruauté, le molosse d'Ouchin cherche surtout les bonnes prises,
observa Gérian de Froec. Je ne vois pas pourquoi il enlèverait des paysans qui ne lui rapporteront rien. Je soupçonnerais plutôt une maraude de pillards ou romans en quête d'esclaves.
Si tel est le cas, ils sont déjà très loin, conjectura Cohir de Thèves. Ne vous laissez pas entraîner trop avant, Vaumacel.
Il désigna Ivorin de la coupe qu'il avait en main.
Sans quoi, ce jeune preux changera encore d'opinion et vous couvrira à nouveau d'opprobre.
Les discussions s'étaient poursuivies fort avant dans la soirée. Les pages avaient dû éclairer la salle en allumant des flambeaux, et les convives avaient même eu le loisir de terminer leur dessert. Les deux petites filles du trèfle bâillaient sur leur haut siège, les joues sucrées de darioles et de pommes amollées. Le gros matou s'était assoupi en boule sur les genoux de l'aîné. Seule une oreille, ornée d'un toupet de poils noirs, émergeait au-dessus de la table. Fatigués par le voyage et désireux de reprendre la route au matin, les invités du seigneur ne prolongèrent guère la veillée. Malgré la belle surface de l'hôtel noble, cela faisait bien des chevaliers, des écuyers et des pages à loger. Selon l'usage, on dormirait à plusieurs par lit. Hôte de marque, Blancandin fut convié à partager la couche du seigneur et de la dame. La suite du prince se répartit les autres lits des appartements privés, du tinel et de la salle des gardes. La compagnie d'Edan restant peu prisée, il se retrouva à occuper une banquette plutôt étroite avec Ivorin, dans une salle assez froide de la tour Carel.
Vous n'auriez pas dû vous porter garant de mon retour, gronda gentiment le sire de Vaumacel en se dévêtant. Imaginez qu'au cours de mon voyage, je tombe dans un coupe-gorge.
Vous redoublerez donc de prudence pour ne pas manquer à votre parole,
rétorqua Ivorin. Qu'en pensera la baronne de Brigor?
Pique-pendre, je gage.
Et cela ne vous embarrasse point?
Ce qui m'embarrasse, c'est de ne savoir à qui donner raison. En vérité, je vous mets à l'épreuve, Sir Edan. Si vous revenez à temps à Lindinas, vous me convaincrez que la baronne mentait en vous accusant de déloyauté.
Je ne vous décevrai pas. C'est une leçon que, malgré votre jeune âge, vous venez de me donner, Sir Ivorin. Jamais je ne m'étais retrouvé l'obligé de mon prisonnier.
Les compagnons se glissèrent sous leur couverture. L'éclairage chiche d'une chandelle accentua brièvement les nombreuses cicatrices qui bourgeonnaient sur le torse et les bras des dames. Par politesse, Ivorin fit mine de n'avoir rien vu, mais il fut impressionné par cette résille de marques et de balafres.
Une longue carrière de joutes et de combats avait marqué la chair du chevalier de Vaumacel. C'était presque miracle qu'aucune de ses blessures ne l'eût laissé diminuer ou impotent. Les deux hommes qui, le matin même, s'affrontaient en duel, ne tardèrent pas à s'endormir côte à côte. L'un comme l'autre avait la tête un peu grise du vin du trèfle, et tous deux avaient besoin de réparer leurs forces. Toutefois, Ivorin ne dormit pas d'une traite jusqu'au matin. Au beau milieu de la nuit, un accès d'inquiétude le réveilla en sursaut. Pendant un instant, il eut la certitude d'avoir croisé un regard d'émeraude, penché sur lui avec une curiosité indiscrète. Cette impression se dissipa très vite et il pensa avoir rêvé. Tout près de lui, Edan reposait silencieux, les paupières closes, d'une immobilité de pierre. Dans la lueur vague de la brasière, Ivorin trouva que le sommeil vieillissait son compagnon. Le jeune chevalier se retourna en fermant les yeux. Entre deux eaux, son esprit dériva en rêveries agréables. Il revit au tournoi de Belcastel l'exquise damoiselle Héloïse qui lui offrait sa manche et qui battait des mains, les yeux brillants de plaisir, chaque fois qu'il renversait un adversaire. Il revécut le bal donné au soir et le baiser donné en public par Héloïse, délicieusement charmeuse, si fière d'avoir prêté ses couleurs au champion du jour. Il pouvait presque sentir à nouveau la douceur satinée de ses lèvres. Il s'émerveilla de ce souvenir ensorcelant, se demanda par quelle grâce il lui revenait aussi sensible. Juste avant de sombrer dans le sommeil, il en trouva l'origine. Dans cette tour mal chauffée du château du Trèfle, dans ce lit partagé avec le chevalier de Vaumacel, il respirait un parfum d'eau de rose qui lui ramenait sa gracieuse dame de belle estance.